Hola, Guétal, la mourère des... Oh là là, c'est nul. El hombre de la calier, la paella des Pedro, es la... Oh non, mais je suis nul en espagnol. Et dire que dans 2 jours, je dois me rendre en Espagne, justement. Qui pourrait m'aider à bien savoir parler espagnol? Ah, je sais. Bonjour Munira.
Bonjour tout le monde.
Alors, on te connaît bien pour toutes tes séries dans Spirou, mais tu es espagnol et prochainement je dois me rendre justement en Espagne. Est-ce que tu aurais une phrase passe-partout à m'apprendre pour me déplacer n'importe où dans ce pays?
Bien sûr, c'est una cerveza, por favor. Ça veut dire un bière, je vous en prie.
On lit tes séries dans Spirou, plusieurs même. Est-ce que tu as l'impression d'être un peu un pilier du journal?
Un pilier? Non, pas du tout. Je suis un habituel, en tout cas. Mais pas du tout un pilier. Bah, un journal, plus que ses auteurs, plus que ses séries, c'est son rédactionnel. C'est son rédacteur-chef qui marque un peu la ligne du journal et qui est vraiment le pilier du journal, le chef d'orchestre en quelque sorte. Donc voilà, nous les auteurs, on est là juste pour fournir.
Tu es dessinateur et parfois tu es scénariste, comme sur les Campbell ou même sur ta série Zorglub. Tu préfères travailler seul ou avec un autre scénariste?
Ça dépend. Disons que travailler avec quelqu'un d'autre, ça me permet d'avoir un ping-pong, tu vois, un échange des idées. On est moins seul, on est plus sûr de ce qu'on fait parce que là, on a un peu l'opinion de l'autre qui vient vous rassurer en quelque sorte. Et quand on est tout seul, moi j'ai tendance à énormément hésiter, à me poser des questions tout le temps. J'ai passé énormément de temps à écrire, plus de temps au fait qu'à dessiner. Et donc voilà, les deux exercices me plaisent énormément. Je suis très content à écrire mes propres histoires, mais aussi à travailler en collaboration avec quelqu'un d'autre.
Tu as mis du temps avant de te mettre au scénario?
Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais facilement 15 ans, depuis que j'avais commencé ma carrière, ma petite carrière professionnelle en tant que dessinateur. Je ne le fais pas parce que j'avais un besoin formidable, ni un envie folle de me montrer en tant qu'auteur complet ou quelque chose comme ça, mais justement, ça s'est venu comme ça. Justement, merci au journal Spirou parce que... Le rédacteur-chef m'avait proposé à faire juste une histoire de pirate, comme ça, un peu à la va-vite, sans plus d'ambition. Et j'ai commencé à faire une histoire, ensuite un autre. J'ai réussi à tracer en ligne narratif qui liait toutes ces histoires. Et donc, au bout d'un moment, je suis devenu en quelque sorte scénariste. Sans vraiment les prétendre.
Alors bien sûr, il y a les Campbell, mais tu as souvent rendu hommage aux héros plus classiques comme Spirou. Tu as quand même dessiné 4 épisodes aux Tuniques Bleues, en dessinant également Boulet Bill Petit, tu as créé la série Zorglub. Tu as une passion pour les héros anciens?
Bah si, sans doute. Disons que moi, je suis dessinateur parce que j'ai une dette envers tous ces auteurs qui m'ont nourri quand j'étais... enfants et ados, et qui m'ont donné envie de vraiment raconter mes propres histoires à moi-même. Donc, je suis débitoire, en quelque sorte, de tous ces classiques de la bande dessinée. Et si j'ai l'occasion, si on me propose l'occasion de donner une version, de donner un avis, de donner de jouer un peu avec ces formidables créations, je dis jamais non. C'est toujours un pari risqué, parce que j'essaie jamais à faire une reprise littérale de ce qui a été fait, mais vraiment me donner ma vision sur les personnages, sur leur univers, sur cette création première. Déjà parce que je pense que je n'aurais pas les moyens à être si bon que les vrais auteurs de ces séries classiques et mythiques. Et donc, du coup, à quoi ça y est, même. Et ensuite, parce que je pense que c'est un peu ma façon de comprendre la chose, ça y est, toujours, à sans trahir la source d'origine, donner un point de vue, une vision un peu différente.
Est-ce que c'est facile de les mettre à sa sauce?
C'est jamais facile de faire un... C'est génial de le faire, c'est génial surtout de l'avoir fait, parce que tandis qu'on le fait, ça, on souffre beaucoup, mais c'est pas évident, c'est jamais évident. De toute façon, il y a surtout dans toutes ces classiques que j'ai eu la chance de adapter en quelque sorte, il y a quelque chose qui me correspond, qui marie bien avec mon propre dessin, avec mes propres envies personnelles en tant que dessinateur. Donc, c'est toujours c'est pas Blake et Mortimer, tu vois, c'est des classiques dans la tradition marcinellesque, dans la tradition des Spirou Journal, disons, des classiques d'aventure et humour. Et là, je me sens très très bien. Donc là, le dernier, ça a été les Tuniques Bleues, et je me suis vraiment senti vraiment très à l'aise dans cet univers, déjà parce que je les connais très bien, mais ensuite et surtout parce que j'ai vraiment en sintonie, en tant qu'auteur, je les pense, avec Lambi, Le Coban et Salberis.
Alors tu es né en Espagne, quand tu étais petit, il y avait beaucoup de BD ?
Il avait, bien sûr, tout était publié en espagnol, les Tuniques Bleues un peu moins. Ça a été publié au départ par un éditeur mexicain et ensuite ça a pris des années pour que ça revienne. Mais j'ai un grand impact avec les quelques albums que j'avais réussi à lire quand j'étais un gamin. Et j'adorais justement cet côté qui mélange l'humour, les burlesques, avec quelque chose de plus sérieux, de plus ambitieux dans la narration, tu vois. Il y a toujours en réflexion sur la condition humaine, en quelque sorte, qui passe en filigrane, qui passe sans se donner trop d'importance. Et j'aime bien aussi cette humbleté, cette manque d'ambition forte de se montrer au lecteur, c'est-à-dire faire passer justement les idées. C'est pour ça la question. Et donc, essayer à faire des lecteurs critiques. L'Espagne a toujours exporté énormément des artistes visuels. C'est-à-dire, de la même façon qu'il y a des autres nations, des autres pays, des autres traditions qui exportent des auteurs de littérature, des musiciens. L'Espagne, je ne sais pas pourquoi, ça a été toujours des peintres et des dessinateurs qui ont exporté.
C'est quoi ton rapport à Spirou ?
À l'époque, en Espagne, il avait une version du journal Spirou en espagnol qui s'appelait Spirou Ardilla. Ardilla en espagnol, ça veut dire écureuil. Donc, c'était vraiment une transposition presque littérale du journal Spirou tel qu'il était à l'époque, avec tous les classiques dedans et toutes les choses. Donc là, on pouvait lire une version du journal Spirou en Espagne. Donc, je les connaissais, j'ai adoré. C'était totalement différent à la bande dessinée d'humour espagnol. J'étais par les moitié des années 70, dont on sortait d'une période historique, le franquisme, qui a été très compliqué, une période de post-guerre très très dure. Et la bande dessinée d'humour espagnol était un reflet sociologique de cette société un peu traumatisée et un peu tristouille qu'on avait à l'époque. Donc, nos héros, les héros espagnols, n'étaient à jamais capables à réussir leur but. Ils s'effaçaient toujours taper sur la tête dans la dernière case. C'était des lucères. Et c'est ça qui nous faisait rire, semble-t-il. Par contre, quand on regardait ce journal duquel j'étais parlé, cette version du journal Spirou, et là, il avait tous les héros franco-belges, parce qu'il avait aussi des héros qui n'étaient pas dans le journal Spirou, donc Astérix et Lucky Luke, qui à l'époque étaient chez Darko, mais qui étaient publiés dans ce journal-là. C'était tout le contraire. C'était d'un optimisme. C'était d'un joie de vivre. C'est que ça transmettait formidable. Donc, moi, j'ai trouvé là vraiment la place où j'ai voulu vivre.
Est-ce que tu vis entouré de BD ?
Chez moi, oui. Demande à ma femme, je ne sais pas quoi faire pour que j'arrête. Donc, oui, j'ai énormément tous les bandes dessinées que j'ai cumulées tout au long de ma vie parce que j'ai du mal à me défaire de mes bandes dessinées parce que tous me rappellent quelque chose, tous sont importantes en quelque sorte pour moi, mais aussi je continue à acheter. Là maintenant, donc oui, énormément. Et des livres aussi, des disques, tout ça.
Ça ressemble à quoi là où tu travailles ?
Je travaille toujours chez moi, ça me permet de faire la sieste dans mon lit, parce que j'ai fait ma sieste professionnellement avec mon pyjama et tout. Comment il le faut. Hein? Pas un petit sieste tristouille, tu vois, devant la télé un peu à ronfler un peu. Non. Un bon sieste. Mais mon espace à moi n'est pas particulièrement glamoureux ou chic. C'est justement un espace de travail où j'ai mes tables, mes ordinateurs et des fenêtres pour lesquelles le soleil rentre et que j'ai presque toujours fermé. Il y a une fenêtre toujours devant moi qui est fermée parce que quand je monte à l'atelier à travailler, je monte à travailler. Je ne veux pas voir le monde autour, je veux voir le monde qu'il y a dans la planche, qui vient dans la planche. C'est ça le monde qui m'intéresse. C'est ça la curiosité que j'ai. Donc voilà, c'est tout un espace agréable où on peut travailler tranquillement. J'ai toujours des planches des auteurs que j'admire, soit des originaux, soit des faux originaux que j'ai fait moi-même avec mes petits mains. Donc, pas mal des classiques américains des années 30, des choses comme ça. Et bon, j'ai tout mon matos, mes livres, c'est vraiment un bordel. Formidable, c'est là. Et je me sens très à l'aise, là, dans mon propre, bon, chaos. C'est un peu, si tu te rappelles de cette case des Franquin sur Gaston, où Gaston s'avait caché au milieu des livres, il faisait sa sieste, entouragé d'amour, de livres, qui faisait un peu un cave pour lui. Bon, ça c'est le rêve de ma vie, de avoir ça. Et c'est le cachet de ma femme.
Quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaiteraient se lancer dans la BD aujourd'hui?
C'est toujours difficile à donner un conseil. Déjà, il faut le faire. Parce que si on veut le faire, il faut le faire. C'est-à-dire, si on avait soin pour vivre de faire la bande dessinée, il faut le faire. Mais si on n'a pas besoin pour vivre de le faire, il faut faire autre chose parce que c'est trop trop dur. Donc si vraiment tu sens que tu peux vivre sans le faire, ne le fasse pas. Mais si tu ne peux pas vivre sans faire tes petits Mickey à toi, sans raconter tes petites histoires, n'hésite pas surtout. Parce que si c'est très très dur, c'est aussi très gratifiant. Et c'est vraiment une sensation formidable de savoir que tes petites choses sortent de ta table et vont voyager dans le monde et avoir envie à eux-mêmes.
Alors bientôt, dans Spirou, on pourra lire Les Cœurs de Ferraille. C'est ta nouvelle série dont tu es auteur. Ça parle de quoi?
Ouais, avec Bertrand Becker. C'est une histoire qui nous émet nous un peu comme ça, d'une façon très spontanée, très évidente. Et c'est une histoire qui se passe dans un univers qu'on appelle la rétrofiction, c'est-à-dire c'est une sorte de science-fiction qui se passe dans le passé. Et dans ces cas, c'est une sorte de cet États-Unis à la fin du siècle 19 ou peut-être au début du siècle 20, mais où il y a des robots qui habitent et cohabitent avec les humains et qui d'une certaine façon sont les esclaves de ces humains. Donc là, au cours de cet écosystème, nous, on raconte dans les premiers volumes l'histoire d'une petite fille, Isea, qui part à la recherche des cellules robots qui a été renvoyée par sa femme, par sa maman, quand elle est devenue un peu plus grande. Donc voilà, c'est une histoire qui parle de plein de choses, d'une façon métaphorique, en profitant de cet univers fantastique, très proche des contes, d'une certaine façon. Mais en même temps très contemporain, je voudrais dire.
Alors, tu as créé aussi la série Zorglub. Crois-tu que l'on est trop méchant avec les grands méchants?
Mais je ne vois pas Zorglub comme un méchant. Il n'est pas méchant, les pauvres. Il est un. Non, il n'est pas du tout méchant. Non. Pour être méchant, tu dois être conscient d'être en train de faire quelque chose qui est mauvais pour quelqu'un. Mais non, Zorglub, non. Zorglub, il est égoïste, il est égocentrique. Il est un adolescent qui a grandi sans se rendre compte. Il pense qu'à lui-même, il ne se rend pas compte qu'il fait le mal. Tu vois, il n'a pas vraiment cette conscience pure de la méchanceté. Au contraire, c'est un peu un imbécile. S'il est méchant, il est plus par stupidité que par propre méchanceté. Moi, je l'aime bien, justement pour ça. Je pense qu'il a plein de gens comme ça. On est tous un peu comme ça. Et quand on fait des choses mal, normalement, on ne le fait pas en sachant que ça, c'est une méchanceté. Et là, c'est son projet. Ce n'est pas vraiment un méchant.
D'ailleurs, tu lui ressembles à Zorglub?
D'une certaine façon, oui, on a les mêmes cheveux. Tu vois, on a les mêmes chevaux. Oh, coiffure. Donc, oui, d'une certaine façon, tous les personnages sont un peu toi. Je me sens un peu projeté sur Sorglu, comme sur Campbell aussi, d'une certaine façon, ou sur certains personnages secondaires aussi. Sur les Campbell, par exemple, je pense à Cara Pépillon, qui est un crétin qui me ressemble énormément.
Merci Mionera, les cœurs de ferraille, c'est-à-dire très bientôt dans les pages de Spirou, et nous on se retrouve très vite sur Radio Fantasio.